Attention, moteur.
Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night.
Have you ever had a dream yet?
Une chaise longue et un étang avec des canards. C'est con les canards, mais ça fait cossu.
Play it once, Sam. For all time's sake.
Encore? Ma frère, il y a un mois, c'était déjà la fin du mois.
Bonjour à tous, vous écoutez CinéZoom, l'émission qui vous parle cinéma. Bienvenue dans cette nouvelle émission hors série dis-je, puisque c'est la semaine de notre festival du film de Fontenay-le-Comte. C'est sur le thème de la cuisine, de la gastronomie et de la nourriture au cinéma. Et cela se poursuit jusqu'à dimanche, le dimanche 24 mars. Je suis aujourd'hui en compagnie de Pierre, le président de notre association KinoZoom. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Au programme aujourd'hui de ce numéro, nous recevons dans les studios de Digue Radio l'acteur Dominique Pinon, l'un de nos invités qui nous fait l'honneur de sa présence, occasion idéale pour évoquer avec lui, bien entendu, le film que nous programmons ce soir, samedi 23 mars à 20h30, Délicatessen, mais pas que. Bref, pour parler cinéma, CinéZoom hors série numéro 5, c'est parti. Dominique Pinon, bonjour.
Bonjour.
Alors, faut-il vous présenter pour nos auditeurs ? On vous présente très souvent, pour faire court, comme l'un des acteurs fétiches du réalisateur Jean-Pierre Jeunet. C'est vrai que vous avez joué dans tous ces films. Nous allons peut-être en reparler. Il faut bien entendu citer dans votre filmographie très riche, évidemment, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, Alien la résurrection, Un long dimanche de fiançailles. Vous avez interprété des seconds rôles, mais aussi, des seconds rôles, mais aussi des premiers rôles dont on se souvient, par exemple, dans Dick Henneck, qui prend peu à peu la dimension d'un film culte. Mais vous êtes aussi comédien de théâtre et vous faites des lectures. Je pense aussi qu'on va en reparler. Et pour notre première partie, je vous propose une plongée immersive avec cette bande-annonce.
On vient d'entendre cette bande-annonce qui est très, très sonore, très particulière, hein, qui nous met tout de suite dans l'ambiance déjà très étrange de Délicatessen. Mmh. Alors, Dominique Pinon, vous avez le premier rôle dans Délicatessen, c'est votre premier rôle.
Oui, cinéma, oui, c'est vrai. Je faisais du cinéma déjà depuis une dizaine d'années.
mon premier long métrage ayant été Diva de Jean-Jacques Benex. Et puis, entre-temps, j'ai fait du théâtre, un peu, beaucoup même. Un jour, je reçois un coup de fil d'un jeune homme qui s'appelle Jean-Pierre Jeunet, qui est arrivé à Paris en même temps que moi. Et puis, voilà, on s'est connus comme ça. Et alors, donc, je me souviens avoir reçu le scénario. Et c'était la première fois que je lisais un scénario écrit storyboardé.
D'accord.
Donc on lisait comme une bande dessinée avec les petits dessins de Marc Caro.
C'est Caro, voilà, c'est ça. Ouais.
Et puis, en regard de chaque dessin, il y avait la ligne de dialogue correspondant, etc. Et voilà, déjà ça me plaisait beaucoup. Mais je n'étais pas prévu pour avoir le premier rôle au départ. Je devais faire le rôle que a fini par faire Tiki Olgado.
Oui, l'un des locataires.
Voilà, l'un des locataires ouais. Voilà. Et puis, voilà, le casting ne trouvait pas de louison idéal. Et la productrice Claudie Ossard m'a demandé si je voulais passer tes essais. J'ai dit bien entendu.
Évidemment.
Et c'est ainsi que je fus choisi pour faire l'ex-clown louison.
Et vous l'avez dit, là, je reviens dessus, vous avez fait une dizaine d'années de petits rôles ou de second rôle.
Non, j'ai fait des choses quand même. C'était mix. J'ai fait une très très belle télé qui s'appelait Via Mala, qui était passée en prime, comme on dit maintenant, sur TF1 le samedi. C'était une grosse production austro-germano-française. Avec Marouchka Detmers, où j'avais le premier rôle aussi. Il y avait Marouchka Detmers, il y avait Mario Adorf, des grands acteurs allemands. Et puis voilà. Et puis sinon, j'ai fait du théâtre assez vite aussi avec le Théâtre National du Nord-Pas-de-Calais, dirigé par Gilles Bourdet à l'époque, qui s'appelait La Salamandre, qui était une troupe très connue dans le.
Et vous avez fait les deux, théâtre, cinéma, tout du long de votre carrière, j'entends.
Oui, c'est vrai, oui, j'ai fait. J'ai fait. Comme j'ai jamais, si vous voulez, j'ai jamais. Moi, je suis toujours allé là où on m'appelait.
Oui.
J'ai jamais cherché à forcer les portes, j'ai eu cette chance. C'est trouvé que régulièrement j'ai fait du théâtre et puis cinéma, pareil. Mais le cinéma a été plus.
Plus fluctuant,
voilà.
Parce que par contre, il y a quand même, enfin je sais pas, au niveau cinéma, il y a un avant et un après Délicatessen, non? Parce que ça a eu beaucoup de succès, ça vous a quand même un peu propulsé, et puis Jeunet est devenu très connu, enfin assez vite quoi. Et ça vous a pas aspiré, je sais pas.
Non, j'ai toujours été considéré un peu comme un petit peu un acteur à part, voilà. Non, on peut pas dire que c'est pas pour ça que j'ai.
Il y a eu plus de propositions ou de, je sais pas.
Oui, peut-être juste après. Oui, après j'ai fait un très joli film qui s'appelait Les Arcandiers. Mais quand même, ça a continué à être un peu fluctuant aussi. Voilà. Et régulièrement, je suis tombé sur des régulièrement tous les 10 ans, disons. D'un coup, il y avait un nouveau film culte. On parlait de Délicatessen tout à l'heure.
De Dickeneck, voilà. Et sur Jeunet, alors, donc vous l'avez rencontré, vous avez dit, vous aviez fait un ou deux courts-métrages, je crois, avec lui avant.
Ah oui.
Voilà. Et depuis, à partir donc, de Délicatessen, il vient. Alors, comment ça se passe? Vous êtes très amis, il vient vous chercher à chaque fois, parce que donc vous êtes dans de tous ces films, même dans des tout petits rôles. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes amis, etc., ou parce qu'à chaque fois, il y a un rôle qui vous correspond bien, ou ça marche comment?
Surtout parce que je crois qu'on a vécu cette expérience ensemble de premier long métrage, qui était un premier long métrage pour beaucoup de monde sur le plateau, même pour les techniciens, etc. Et c'est resté un souvenir très fort de tournage, de succès, voilà, et il n'y avait pas que Jean-Pierre Jeunet, c'était Marc Caro aussi. Hein,
bien sûr.
Donc voilà, on s'est trouvé tout naturellement qu'on continue à faire des films ensemble. La Cité des Enfants Perdus, qui devait faire d'ailleurs avant Délicatessen.
D'accord.
Voilà, et puis après, oui.
On continue, évidemment, avec Jeunet.
Même sans Caro. Oui, on se voit. On ne se voit pas toutes les semaines, mais c'est vrai qu'on a une confiance commune et une amitié qui est née, oui.
Alors, je propose qu'on s'éloigne un peu de Delicatessen et de Genet pour parler plus généralement du métier d'acteur. Parce qu'après tout, Pierre, nous tenons un acteur et pas n'importe lequel devant notre micro, alors on en profite.
C'est gentil.
Alors, juste dites-nous, enfin, vous l'avez dit un peu, mais il faut dire quand on est acteur, alors, vous, c'est surtout des... On vient vous chercher, c'est-à-dire... des scénarios vous parviennent, vous avez des coups de fil, vous avez...
Ce serait prétentieux de dire des scénarios me parviennent. De temps en temps, je reçois un scénario, par l'intermédiaire de mon agent, etc. Mais je ne reçois pas des scénarios. J'ai jamais eu, dans ma vie d'acteur, à choisir entre 10 projets.
Bien sûr.
Ça n'arrive que très, très rarement, croyez-moi.
Et dans la première partie de vie, là, avant Delicatessen, c'est plus difficile. Je veux dire, est-ce qu'il y a des années de galère là, pour un jeune acteur
De galère, non. Enfin, il y a eu des années difficiles après Diva. De Benex en 80, parce que après, comme dans Diva, j'avais un rôle très particulier de psychopathe skinhead qui ouvrait la bouche pour dire que j'aime pas ci, j'aime pas ça. Donc après, on m'a un peu, comment dire, typecasté, comme on dit. J'ai pas eu beaucoup de trucs intéressants, à part toujours les mêmes gens de voyous.
Dans 37-2, c'est aussi un rôle complètement déjanté, déjanté.
Oui. Entre 80 donc, et 90, l'année où on a tourné les 4 scènes, j'ai eu la chance de rencontrer Gildas Bourdet, qui dirigeait donc le théâtre de la Salamandre à Lille, et j'ai fait de très belles choses au théâtre.
En diversifiant. Oui. Et est-ce qu'on vous a un peu trop proposé les mêmes rôles, ou est-ce que c'est toujours un peu les mêmes? Vous en parliez tout à l'heure, là, on vous a enfermé un peu dans un rôle, vous trouvez, ou dans un personnage?
Je sais pas comment répondre à ça. Quand Delicatessen est sorti, tout de suite, on était catalogué comme acteur à trogne ou comme ça. Bon, pourquoi pas, hein, moi je... Voilà, mais grâce au théâtre, en fait, j'ai pu
diversifier.
J'ai pu trouver mon bonheur que je ne trouvais pas toujours encore au cinéma. Voilà, parce qu'au théâtre, j'ai fait de très belles choses et qui me plaisaient beaucoup, avec des gens fort sympathiques, ma foi. Donc,
Et je continue sur le métier d'acteur. Quand on est. Alors, on a un rôle, et alors, il y a. Comment ça se passe? On discute avec le scénariste longtemps du personnage, ou on en discute avec le réalisateur? On fait ça très en amont du tournage? On fait ça le matin du tournage? Ça marche comment?
Alors, il y a autant de méthodes que de cas particuliers, que de tournage et que de réalisateur. Pour parler de Delicatessen, on s'est d'abord rencontré avec Jean-Pierre Genet. Et puis, comme je vous ai dit, j'ai passé des essais. J'ai reçu le storyboard, qui tout de suite, parce qu'à l'époque, après 10 ans de cinéma, c'est la première fois que je voyais un storyboard, c'était tout ça, ça m'a pâté beaucoup. Et comme Jean-Pierre, c'était son premier film aussi, donc il avait un peu peur des acteurs, il ne savait pas comment ça fonctionnait bien, sur quel bouton fallait appuyer. Donc, on a fait des essais, on a fait des répétitions, on a fait. Et puis. Vous savez, on n'a pas parlé, il n'y a pas de psychologie des personnages, il y a simplement, vous savez, puis il y a des essais, des costumes, il y a tout rentre dans un cadre, surtout Delicatessen, où tout est...
C'est particulier.
La couleur du film.
Tout est étrange, bien sûr.
Il faut que tout matche. Et donc, c'est surtout les acteurs. Donc, on a beaucoup répété, en fait. Il y a une scène dans Delicatessen qu'on a beaucoup, beaucoup répété avant, c'est la scène du thé. Ou quand mon amoureuse vient chez moi pour boire le thé et que tout part en...
Oui.
Voilà. Et cette scène, on l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup répétée.
C'est quoi beaucoup? C'est 10-20 fois?
Oui.
Ouais. Et ça, c'est quoi?
Toute la journée,
la même scène, c'est ça?
Toute la journée, l'après-midi, disons.
D'accord.
Pas non plus des forçats. et au moment du tournage, quand on a tourné la scène... Ça amusait beaucoup Jean-Pierre, c'est que donc on avait répété la scène, t'es là, tu te mets là, tu t'assois là, gnie, la caméra sera là, donc on avait tout répété vraiment presque geste par geste. Et on prend une prise, une deuxième prise, Et puis la troisième prise, Jean-Pierre vient me voir, moi, seulement moi, et me dit au creux de l'oreille, au lieu de t'asseoir là, tu vas t'asseoir de l'autre côté. Ce qui a mis ma partenaire dans une vraie panique, puisqu'elle elle devait jouer la panique dans la scène. Et la prise qui a été gardée, c'est celle-là, quoi. Parce qu'on voit très bien un moment, mais elle fait... Et il lui avait dit avant, quoi qu'il arrive, hein, il faut continuer jusqu'au bout, parce qu'on ne sait jamais. Surtout qu'on tournait encore en pellicule à ce moment-là.
Ah oui, donc il fallait faire attention. Ouais. Ah oui, donc il y a une vraie intervention, là, un vrai geste.
Oui. Et ça, il a fait ça 2-3 fois au cours du tournage. Il aimait bien faire ça.
Et ça,
et bon, et ça c'est voilà. Sinon, il y a d'autres réalisateurs. C'est autrement. Un autre réalisateur à qui j'ai eu le bonheur de tourner, c'était Claude Lelouch. J'ai fait Roman de Garce. C'était aussi, mais c'est une autre méthode.
C'est
aussi.
Encore autre chose. Ouais. On tourne autrement.
Ouais. Ouais. Mais chaque méthode ne marche pas s'il n'y a pas de l'enthousiasme et de la confiance de chaque côté. Et ça m'est arrivé de tomber 2-3 fois sur des expériences pas trop excitantes, voilà. Je n'en dirai pas.
Parce que non, mais sans nous dire, c'est que le cœur n'y était pas ou
ben,
c'est
parce que
ça n'a pas la fusion, c'est pas faite, l'alchimie n'a pas fonctionné.
Ben, on sent que le réalisateur vous aime pas vraiment. Que...
Ah d'accord. Oui, pourtant oui. Il vous a choisi, non
pas ben, forcément. Oui, mais voilà, d'un seul coup, je sais pas pourquoi, ça se passe pas bien. On sent que je vous expédie. Enfin bref. Voilà.
Oui, d'accord. Et toujours sur ce métier d'acteur, il y a le tournage, etc. Puis après, il y a après le tournage, il y a la promotion, etc. Vous le voyez comment, vous, la post, oui, la promotion du film, c'est quoi? C'est une espèce de corvée obligatoire qu'on fait volontiers? C'est un plaisir d'aller voir le public ou
oui,
c'est pénible,
oui.
Mais voilà. Enfin,
mais
qu'est-ce que vous diriez?
J'en ai pas fait beaucoup, moi, en fait. J'aime pas trop ça. Aller voir le public, oui. Sur Délicatesse, de toute façon, les premiers films comme ça que j'ai fait, la Délicatesse, comme je faisais du théâtre en même temps, chaque fois qu'il y avait la promo, j'étais pas libre, quoi.
Donc, ah oui. Délicatesse. Vous aviez des engagements.
Oui, voilà. Délicatesse qui a fait le tour du monde, par exemple. Bon, Jean-Pierre et Marc sont allés au Japon, ils étaient partout. Oui. Et.
Sans vous.
J'aurais dû y aller avec, mais je pouvais pas, parce que j'étais au théâtre. Mais. Voilà, mais de toute façon, je préfère travailler que...
Merci Dominique. Alors, nous allons changer de sujet, parce qu'effectivement, vous avez plus d'une corde à votre arc. Vous avez dit que vous faites du théâtre, et vous faites des lectures, et ce, je crois, de plus en plus, peut-être ?
Oui, de plus en plus, depuis un certain nombre d'années, oui.
D'accord, donc on imagine que c'est parce que ça vous plaît ?
Oui, j'adore ça, et c'est presque... Moi, c'est presque la lecture qui m'a amené au métier de comédien, parce que quand j'étais petit... J'avais une grand-mère, ma grand-mère paternelle, qui était alitée déjà, que j'ai connue peu d'années, puisqu'elle est décédée, je ne sais pas, je devais avoir 10-12 ans. Et son grand plaisir était que j'aille lui faire des lectures. J'avais 8 ans, je ne sais pas, 9 ans. Et bon, j'étais un petit peu doué pour ça, et elle adorait que j'aille lui faire des lectures. J'ai toujours ce souvenir-là en tête quand je fais des lectures.
D'accord, et quels sont vos auteurs préférés ?
Oh, il y en a un tas, je lis vraiment un peu de tout. J'ai un livre j'aime beaucoup les livres un peu noirs, enfin les trucs noirs. J'ai un livre de chevet qui s'appelle La malédiction du gitan, qui est un livre d'un auteur américain, du sud-américain, du vieux sud-américain. Auquel j'ai vécu d'ailleurs, et qui s'appelle Harry Cruz et La malédiction du gitan. C'est un livre culte pour moi. C'est un sourd-muet qui est le narrateur, qui raconte toute l'histoire de son point de vue de sourd-muet, et c'est extraordinaire. D'ailleurs, les droits avaient été achetés, je crois, par Harvey Keitel pour en faire un film, mais ça n'a toujours pas été fait. Sinon, je lis vraiment de tout. Je lis du classique, je lis. Pas mal d'auteurs contemporains, il y a des auteurs que j'adore, comme Jean Echenoz. Qu'est-ce que c'est le dernier livre que j'ai lu? Ah ben un livre sur le cinéma qui est formidable, de Jonathan Coe, qui s'appelle Me and Mr. Wilder, qui est un livre formidable. C'est le récit d'une jeune fille qui se retrouve par hasard sur un tournage, qui rencontre Billy Wilder, et c'est formidable, c'est vraiment...
D'accord, ouais. Très bien. Bah, merci pour ces conseils. Alors justement, nous vous avions proposé de faire une lecture. Et nous avions pensé à, évidemment, à Rabelais. Nos auditeurs savent pourquoi, bien entendu. Rabelais, c'est un auteur auquel on est particulièrement attaché à Fontenay-le-Comte et en Vendée, bien entendu. Et puis Rabelais parce qu'on y trouve dans ses textes de longues, longues pages sur la nourriture, le festin, oui. Les personnages mangent beaucoup,
oui,
souvent.
Beaucoup, souvent. Oui.
Voilà. Alors, écoutez, si vous le voulez bien, je vous propose peut-être de lire un passage, celui que vous, un de ceux que vous nous lirez ce soir,
voilà,
au cinéma,
voilà.
En forme de mise en bouche alléchante. Alors, je vous laisse choisir.
Alors, je vais vous faire écouter donc la naissance de Gargantua. Pendant qu'il tenait ses menus propos de beuverie, Gargamel commença à se sentir mal du bas. Grand Gousier se leva alors de l'herbe et la réconforta comme il faut, pensant que c'était les douleurs de l'accouchement. Il lui dit qu'elle s'était allongée là, sur l'herbe, dans le soleil, qu'elle ferait bientôt des pieds neufs, qu'il lui fallait donc reprendre courage pour la naissance de son poupon. Et même si la douleur lui causait quelques tracas, elle serait toutefois brève et la joie qui lui succéderait bientôt lui ferait oublier toutes ses contrariétés, si bien qu'il ne lui en resterait pas même le souvenir. « Soyez courageuse comme une brebis, disait-il, débarrassez-vous de celui-ci et faisons-en un bien vite un autre. Ah, dit-elle, vous en parlez tellement à votre aise, vous autres hommes, eh bien, par Dieu, je m'y efforcerai, puisqu'il vous plaît, mais plus à Dieu que vous l'eussiez coupé. Quoi, dit Grand Gousier. Oh, dit-elle, quel nigo vous faites, vous comprenez très bien. Mon membre, dit-il, pâle sambleu, si bon vous semble, faites apporter un couteau. Oh, dit-elle, à Dieu ne plaise, Dieu me le pardonne, je ne le dis pas du fond du cœur, ne prêtez pas attention à mes propos, mais j'aurai fort à faire aujourd'hui si Dieu ne m'aide, et tout cela par la faute de votre membre et pour votre bon plaisir. Courage, courage, dit-il, ne vous souciez pas du reste et laissez faire les quatre bœufs de devant, je vais boire encore un petit coup, si pendant ce temps vous ressentiez quelques douleurs, je ne serai pas loin, criez les mains en porte-voix et je me rendrai auprès de vous. Peu de temps après, elle commença à soupirer, à se lamenter, à crier. Aussitôt, une foule de sages-femmes survinrent de tous côtés. En la tâtant par le bas, elles trouvèrent quelques lambeaux de peau d'assez mauvais goût et pensèrent que c'était l'enfant. Mais c'était le fondement qui lui échappait à cause du relâchement de l'intestin droit. Vous l'appelez boyau du cul, car elle avait trop mangé de tripes, comme nous l'avons expliqué plus haut. Alors, une infâme vieille de la compagnie, qui avait la réputation d'être une grande guérisseuse et qui, il y a plus de 60 ans, était venue de Brispaille, près de Saint-Genoux, lui administra un astringent si horrible que tous ses sphincters furent obstrués et resserrés au point que vous auriez eu grand-peine à les élargir avec les dents, ce qui est une chose bien horrible à se représenter. De la même manière, à la messe de Saint-Martin, le diable, transcribant le bavardage de deux joyeuses commères, allongea son parchemin à belles dents. Cet incident entraîna le relâchement vers le haut des cotylédons de la matrice à travers lesquels l'enfant bondit et entra dans la veine cave, puis grimpant par le diaphragme jusqu'au-dessus des épaules, à l'endroit où cette veine se divise en deux, il se dirigea à gauche et sortit de ce côté par l'oreille. Aussitôt qu'il fut né, il ne cria pas comme les autres enfants « Mimi !» mais il s'écria d'une voix forte « À boire ! À boire ! À boire !» comme pour inviter tout le monde à boire, si bien qu'on l'entendit dans tout le pays de Bus et de Bibaret.
Très bien. Merci
beaucoup.
Merci Dominique. Voilà un avant-goût, hein, oui, de ce que vous allez
si
nous proposer
ce soir. Si on peut
s'exprimer ainsi, oui. C'est ça. Ça vous a plu de lire Rabelais ?
Oui, je vais me souvenir de mes études de lettres. Mais oui, c'est toujours plaisant à lire, bien sûr.
Oui,
c'est très, très plaisant à lire.
Une truculence extraordinaire. Truculence. À vous entendre, c'est merveilleux.
Oui. Ah oui.
Pour clore cette émission, je vous propose tout simplement de revenir dans l'univers de Genet avec l'une des fameuses compositions de Yann Tiersen, du fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Ça s'appelle « Comptine d'un autre été, l'après-midi ».
Thank you.
Dominique Pinon, vous nous confiez hors micro quelque chose à ce propos, au sujet de la musique de Jan Tiersen.
Oui, en l'écoutant, je me revenais donc le souvenir de comment, parce que Jean-Pierre n'avait pas du tout d'idée de musique au début du tournage, on tournait des scènes, etc. Donc, il ne savait pas quelle musique mettre. Et en fait, Jan Tiersen, il connaissait pas du tout. Et puis un jour, la deuxième, troisième assistante vient le chercher en voiture pour aller sur le tournage. Et puis il se trouve qu'elle avait une cassette de Jan Tiersen dans sa voiture. Elle la met dans l'autoradio et tout de suite, en entendant ça, je dis mais c'est quoi ça, c'est qui? Et hop, voilà, c'est comme ça que Jan Tiersen s'est retrouvé à faire la musique.
Incroyable, quand on sait le succès qu'a eu à la fois la musique et puis le film. Là, quand vous tournez un film comme ça, qui a eu un tel succès, une résonance internationale, vous vous sentiez ça?
Sur le tournage, on ne sait jamais si. J'avais lu le script, tout ça. On sentait que c'était quand même quelque chose. En fait, ce tournage, ce film, il l'a tourné juste après qu'on ait fait Alien
4,
Resurrection aux États-Unis. Et après Alien, il avait envie de faire un film qui se passe en bas de chez lui. et comme il habite juste à côté du café là, de Moulins, on a tourné, donc il a écrit ça, il voulait écrire une histoire qui se passe à Montmartre, voilà. Et en fait, c'est à la projection du film qu'on se rend compte, la première projection quand il était tout, qu'on se rend compte si ça va marcher ou ça. Et j'ai eu ce sentiment là sur Amélie Poulain tout de suite.
Oui.
Ouais.
Eh bien, merci encore.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Oui, à bientôt. Nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle émission de CinéZoom. À très vite au cinéma et sur les ondes de Digue Radio.
Elle était bien celle-là.